C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Kadhafi a toujours des rêves en tête, des rêves qui dérangent. Et si une petite révolution réglait le problème ? L'escalier de la vérité nous ramène à 2011. En mars 2009, Moussa Koussa devient ministre des Affaires étrangères. On murmure qu'il est à présent un pion de la CIA. Tout semble bien apaisé. Oubliez les foucades du maître de la Libye que d'aucuns prétendent droguer, l'homme qui proposait d'unir l'un de ses fils à Chelsea Clinton et qui suggérait de fusionner Israël et la Palestine en un seul pays, baptisé Isratine. Oubliez ce régime honni par l'Occident, ce pays dont les syndicats sont bannis, les journalistes invités à respecter les quatre lignes rouges, les opposants emprisonnés et les comploteurs exécutés en public. Le 21 septembre 2010, Moussa est au Waldorf Astoria à New York et s'entretient avec la secrétaire d'État Hillary Clinton avant quelques jours plus tard de prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander la destruction totale et mondiale des armes de destruction massive accompagnée de la stricte application du traité de non-prolifération des armes nucléaires, rappelant au passage que la Libye y a renoncé dès 2003. De quoi se faire quelques ennemis, notamment chez les Américains, qui s'autorisent ce qu'ils interdisent à d'autres. Et le vent mauvais va soudain se lever pour le guide libyen. En 2009, Kadhafi, président de l'Union africaine, propose aux États africains de mettre en place une monnaie totalement indépendante du dollar, le dinar or. L'objectif est que les États du continent africain gardent par-devers eux la richesse issue du pétrole au lieu d'engraisser les banques américaines. Le Nigeria, l'Angola, l'Égypte, la Tunisie étaient partants pour que le dollar ne soit plus utilisé dans les transactions pétrolières. 143 tonnes d'or et autant d'argent étaient détenues par la Libye, un pays qui n'avait pas de dette. L'Occident pouvait commencer à trembler. Les révolutions arabes en Tunisie puis en Égypte allaient survenir providentiellement pour renverser les gouvernants. Peu de temps après ces printemps arabes, le sort de Kadhafi était scellé, ainsi que les mails d'Hillary Clinton en attestent. Il fallait éliminer ce trouble fait. N'avait-il pas, lors de sa première venue aux Nations Unies, déchiré la charte de l'ONU, comparé le Conseil de sécurité à Al-Qaïda et exigé des États occidentaux 7700 milliards de dollars de compensation vis-à-vis des pays africains? Kadhafi prêchait pour que les États les plus riches viennent en aide aux plus pauvres afin d'éviter l'ingérence occidentale. Montrant l'exemple en la matière, la Libye avait accordé des prêts à 40 pays pour un total de 2197 milliards de dollars, dont en 2011, 1302 milliards avaient été remboursés. Kadhafi était disposé à annuler la dette soudanaise de 1287 milliards. La Libye prêtait aux pauvres, Éthiopie comme Mozambique. Kadhafi projetait également d'utiliser les réserves d'eau du Sahara libyen pour approvisionner les pays du Sahel. Des façons de faire inacceptables. Après le renversement de Ben Ali puis de Moubarak en février 2011, la contestation gagne la Libye. Les manifestants réclament plus de liberté, plus de démocratie, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses. Ce sont des mouvements claniques et tribaux. En face d'eux, Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans, est désormais le leader arabe qui a le plus de longévité. La rébellion soutenue par des religieux ainsi que par des intellectuels, lesquels seront rapidement emprisonnés, part de Cyrénaïque. Dans la ville de Benghazi, la répression fait rage entre le 15 et le 17 février. Certains cadres du régime rejoignent les insurgés et un conseil national de transition se constitue. Pendant que les puissances occidentales s'interrogent, Kadhafi reprend progressivement la main. En février, depuis son studio de télévision enfui dans un bunker, il jure d'extirper rue par rue et maison par maison les rebelles qualifiés de blattes et de rats. Bombardements, puis artillerie et déluge de roquettes tirées par les Katyusha, reprise de Ras Lanouf, puis du port pétrolier de Brega. Le 15 mars, c'est Ajdabiya qui tombe. Bientôt, ce sera le foyer des rebelles qui sera reprenable. Benghazi est menacé. Tout semble plié. La communauté internationale n'a pas bougé. Le régime aura maté les rebelles dans 48 heures. Kadhafi a promis la vie sauve à ceux qui se rendaient. Les autres s'enfuiront ou seront massacrés.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way. What would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is.
Occidentaux ont vu chez les rebelles au régime des partisans de la démocratie n'ayant pas d'arrière-pensée islamiste. Avocats, chefs d'entreprise, depuis leur pays d'accueil ou sur les réseaux sociaux, semblaient donner un visage très avenant et progressiste au soulèvement. Et quand Kadhafi prétendait que derrière cette vitrine on trouvait dissimulé Al-Qaïda, on rejetait ses insinuations. On refusait de voir dans la révolution autre chose que des manifestants pacifiques en butte à un régime sanguinaire. On occultait les destructions de bâtiments publics, les attaques contre les Égyptiens, les Coréens, les Serbes, les Noirs africains, les drapeaux brandis de l'ex-monarchie d'Idriss qu'on avait sorti de la naphtaline, ce qui en disait long sur la volonté de certains de retomber dans le giron des Occidentaux contre un abandon de leur souveraineté pétrolière. Kadhafi avait commis une erreur, ne pas se doter de frappes nucléaires. Tous les pays qui ont subi la dure loi de la Pax Americana étaient dépourvus de l'arme atomique. Ils furent détruits, leurs dirigeants chassés, voire tués, leur peuple massacré. L'un des seuls petits pays qui nargue la toute-puissance de Washington depuis des décennies est la Corée du Nord. Par des essais réguliers de missiles, cette nation rappelle qu'elle est capable de frapper ses ennemis à distance, et les profils de son dirigeant comme de la sœur de ce dernier ne laissent aucun doute sur leur détermination le cas échéant, le nucléaire et leur assurance vie. Kadhafi allait trouver la mort pour n'en avoir point disposé. À la manœuvre pour l'éliminer, plusieurs acteurs. Le premier est Bernard-Henri Lévy, vexé d'être arrivé trop tard en Égypte pour y jouer le rôle qu'il ambitionne dans la chute des régimes qu'il aborde. Fils d'André Lévy, exploitant de bois africain en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Gabon, en faisant suer le burnous de ses employés à coups de salaires payés avec des élastiques, de sanitaires déplorables et d'eau croupie en guise d'eau potable, Bernard-Henri Lévy bénéficia de prêts de l'État français pour renflouer une entreprise en danger dont il avait hérité, puis sut la revendre avec profit pour 120 millions d'euros au milliardaire déjà entré au capital, un certain François Pinault. BHL, comme on le surnomme, n'est pas qu'un philosophe chevelu à la chemise ouverte, c'est aussi un agent de la CIA ainsi qu'un rapport de l'agence daté de 1985 en atteste. C'est aussi et surtout un fervent sioniste prêt à s'allier au diable pour le bonheur de Washington et de Tel Aviv. Il traîne derrière lui une longue liste de cadavres, d'erreurs de jugement et de mensonges médiatiques. Baptisant les talibans « combattants de la liberté », il prétendait connaître le commandant Massoud qu'il n'avait à l'époque jamais rencontré. Il hurla que les Albanais étaient victimes de génocide au Kosovo et après coup on découvrit que les Albanais de l'UCK étaient les génocidaires. Leur mafia put ainsi perpétrer crimes et trafics en tout genre. BHL couvrait alors d'éloges un colonel pour son action à Biak en Bosnie à la tête des casques bleus. Or, le colonel n'y avait jamais mis les pieds. Installé à l'hôtel Tibesti de Benghazi alors que les insurgés tiennent la ville, il fait les 100 pas sur la corniche en tentant d'approcher les dirigeants du Conseil national de transition et parvient à rencontrer Mustapha Abdeljalil, ancien ministre de la justice de Kadhafi, devenu le chef de la rébellion. BHL va promettre de les faire recevoir à l'Élysée, téléphoner le soir même à Sarkozy qui accepte de recevoir les délégués du Conseil, et le 10 mars 2011 à 10h, BHL et les trois délégués libyens sont dans le salon vert du premier étage du palais élyséen. Henri Guénot est présent lui aussi, ainsi que Jean-Louis Lévite, conseiller diplomatique. Et là, devant des Libyens qui n'en croient pas leurs oreilles, Sarkozy présente ce qu'il a préparé avec BHL 2 jours plus tôt. Reconnaissance du Conseil de transition comme seul interlocuteur pour la France. Envoi d'un ambassadeur à Benghazi. Frappes aériennes sur les aéroports militaires avec l'accord de la Ligue arabe. Les Libyens sont aux anges et se hâtent de colporter la nouvelle. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, apprend quasiment la nouvelle dans le journal. Entre-temps, Kadhafi a repris l'offensive. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, lors de notre prochaine rencontre, l'escalier de la vérité nous conduira à la découverte des protagonistes de la chute de Kadhafi. Un grand moment d'hypocrisie du camp du bien.